Radio Prague, les informations.
Le secrétaire général de l'ONU étant en République tchèque, Radek Jan a été accusé d'utiliser la police pour surveiller les parlementaires. Cannes 2011, un film de la FAMU a été sélectionné à la Ciné Fondation. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, est arrivé en République tchèque ce vendredi. Il doit s'entretenir avec les hommes politiques tchèques sur le thème des différentes crises que secoue la planète. Le président Václav Klaus a reçu Ban Ki-moon au château. Les deux hommes ont évoqué la situation en Libye et en Afrique du Nord pendant environ une heure. Il a ensuite rencontré le maire de la ville de Prague ainsi que des représentants du Parlement. Il rencontrera vendredi soir le chef de la diplomatie tchèque, Karel Schwarzenberg. Ban Ki-moon restera à Prague jusqu'à dimanche pour un séjour privé avant de se rendre ensuite en Ukraine pour les commémorations fin avril du 25e anniversaire de la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Le ministre de l'Intérieur et chef du parti Affaires publiques, Radek Jan, a déclaré avoir reçu de la police les détails de rencontres entre l'ex-membre d'Affaires publiques Kristina Kocsi et Petr Tluhoch du parti ODS. Membre de la coalition, Petr Tluhoch a accusé Radek Jan d'avoir recours au service de la police contrôlé par son ministère pour surveiller les activités des parlementaires tchèques. Monsieur Jan a déclaré avoir reçu l'information par un email anonyme d'un policier. Le Premier ministre, quant à lui, a commenté l'affaire en évoquant un policier imbécile et en réfutant l'idée d'un ordre venu d'en haut. La République tchèque a perdu ce vendredi un procès contre la Commission européenne. La Commission accuse la Tchéquie de ne pas avoir respecté les règles de l'Union en utilisant les moyens puisés dans le fonds phare encore avant son adhésion à l'Union. Bruxelles a donc demandé à la République tchèque de rendre dans le budget européen quelques 10 millions d'euros, mais la Tchéquie a refusé de le faire. La Cour de l'Union, dont le siège se trouve au Luxembourg, vient de donner raison à la Commission européenne. La République tchèque peut toutefois encore faire appel. Alors que le Festival de Cannes se rapproche à grands pas, un film de la FAMU, l'école de cinéma tchèque, a été sélectionné à la Ciné Fondation, la section étudiante de ce grand rendez-vous du 7e art. Ce court-métrage est intitulé KG Tigers et a été réalisé par Vladimira Michuka. Cette nomination est déjà un succès en soi pour l'étudiante et son école. Rappelons qu'en 2009, la Ciné Fondation avait distingué Baba, un court-métrage d'une étudiante tchèque, Zuzana Špidlova. Et c'est ce samedi que sera donné le coup d'envoi du 21e Festival des écrivains de Prague. Parmi les personnalités invitées cette année, l'auteur américain Don DeLillo, l'écrivain caribéen Derek Walcott, prix Nobel de littérature, le tchèque Vladimir Paral ou encore l'écrivain turc exilé en France, Nedim Gürsel. On finit avec un mot de sport et de tennis. Petra Kvitova, 18e joueuse mondiale, sera la chef de file de l'équipe tchèque pour la rencontre de Fed Cup face à la Belgique les 16 et 17 avril à Charleroi. Seront également alignés Lucie Šafářová, 31e, Iveta Benešová, 46e et Barbora Zahravová Stritsová, 50e. Une équipe de choc qui pourrait donner du fil à retordre aux Belges, probablement emmenés par Kim Clijsters. On finit encore par un mot de météo. Samedi, jour de fête des Irena. Le temps sera variable avec quelques pluies. Les températures diurnes se situeront entre 10 et 14 degrés. C'est la fin de ce bulletin d'information qui était présenté pour vous par Anna Kubischta.
Faits et événements en République tchèque.
Bienvenue sur Radio Prague. Dans Faits et événements, aujourd'hui, nous parlerons de l'inauguration solennelle du nouveau hall de la gare centrale de Prague, jeudi dernier, par les présidents tchèques et italiens. Le harcèlement sexuel dans les universités tchèques a fait l'objet d'une étude qui vient d'être publiée par l'Institut de sociologie de Prague. Les résultats dans quelques instants. Giorgio Napolitano, le président italien, et son homologue tchèque Václav Klaus ont inauguré jeudi le nouveau hall de la gare centrale de Prague, dont les importants travaux de transformation et de rénovation ont été réalisés par la société italienne d'investissement Grandi Stazioni. Cette société est une actrice majeure du paysage ferroviaire italien où elle possède 13 gares importantes. En Tchéquie, elle est aussi propriétaire des gares de Karlovy Vary et de Marianské Lázně, elle aussi en rénovation. Cette inauguration est censée marquer une nouvelle étape dans la déjà longue histoire de la gare centrale de Prague. Pierre Meignan.
Les travaux, commencés en 2006, ont coûté à ce jour 1,1 milliard de couronnes, soit environ 45 millions d'euros. Et il reste encore à terminer la rénovation du bâtiment Fantova Budova, lequel est surplombé d'une très jolie coupole de style Art Nouveau, malheureusement décrépite. Cette phase des travaux aurait dû être achevée voici 2 ans. Il faudra en attendre 2 de plus pour que le bâtiment retrouve sa jeunesse d'antan, selon Martin Armjic, le porte-parole de la société Grandi Stazioni. Aussi, Zdeněk Lukeš, historien de l'architecture, ne cache pas son impatience quant à la réalisation de ces travaux.
Grandi Stazioni est une entreprise qui a beaucoup d'expérience dans la reconstruction de gares. D'après que j'ai vu jusqu'à présent, je peux dire que ce qu'ils ont fait est impeccable. Cela prend du temps, mais je me réjouis surtout à l'idée de la reconstruction du bâtiment Fanta.
Le président tchèque, Václav Klaus, faisant fi des problèmes politiques auxquels il est confronté, est quant à lui apparu heureux et presque nostalgique lors de cet événement.
Je suis très content que cette rénovation se soit bien passée, et je ne dis pas cela en tant que président de la République, mais comme un homme qui toute sa vie a vécu à Prague et qui a arpenté la gare centrale 1000 fois, 10 000 fois ou je ne sais combien de fois.
Il est vrai que la gare avait besoin d'une seconde jeunesse. Tous les voyageurs s'accordent à le dire. Elle était devenue un lieu de rassemblement pour une foule de gens laissés en marge de la société. Certaines gares tchèques sont encore des lieux où la misère sociale s'affiche au grand jour. L'un des probables objectifs de cette rénovation est atteint. Repousser hors de la vue des touristes les miséreux de Prague. Symbole du capitalisme triomphant, le nouveau hall, d'une surface de 10 000 m2, ressemble peu ou prou à un centre commercial moderne. Les voyageurs peuvent ainsi, en plus de prendre le train, se procurer un nouveau forfait téléphonique, aller manger un hamburger, renouveler leur garde-robe ou encore aller aux toilettes dans l'un des 4 nouveaux blocs prévus à cet effet. Un système de surveillance vidéo a également été mis en place, tandis que des ascenseurs et escalators améliorent la circulation au sein de la gare. Des ambitions que confirme le directeur général de la société Grandi Stazioni, Fabio Battaglia, puisque la gare devait être pour lui un endroit où les gens peuvent tranquillement faire leurs courses et se reposer. D'aucuns aimeraient bien désormais que le parc qui fait face à la gare soit également réaménagé. Mais cette décision appartient à la mairie d'arrondissement de Prague 1. La mise en service de la gare centrale de Prague date du 14 décembre 1871. Elle porte d'abord le nom de l'empereur austro-hongrois de l'époque, François-Joseph Ier. La première ligne exploitée par la compagnie de chemin de fer de l'empereur français François-Joseph Ier reliait Prague à Vienne. Au début du XXe siècle, la gare est rénovée et agrandie. C'est l'architecte Joseph Fanta qui réalisa ces travaux dans le style Art Nouveau et qui donne aujourd'hui son nom à la coupole qui domine la gare et au café qu'elle abrite. Cette partie de la gare est celle qui a la plus grande valeur artistique. Zdeněk Lukeš revient sur l'histoire de la gare.
Au XIXe siècle, la gare se dressait pompeusement comme un bâtiment dominant la ville. Finalement, c'est le bâtiment Art Nouveau réalisé par Fanta qui couronne Prague. La gare est devenue par la suite un bien municipal et a perdu de sa superbe.
Après l'indépendance de la Tchécoslovaquie en 1918, la gare change de nom et devient la gare Wilson, en hommage au président américain. Chose qui n'est visiblement pas du goût des communistes, puisqu'en 1953, ils la renomment Praha Ravnina Draží, c'est-à-dire la gare centrale de Prague, un nom qu'elle garde encore aujourd'hui pour célébrer sa seconde jeunesse. Pour conclure, notons que c'est la société tchèque de chemin de fer České dráhy qui a obtenu un bail lui permettant d'exploiter la gare pendant 30 ans.
Deux étudiants tchèques sur 3 auraient été victimes d'harcèlement sexuel dans le milieu universitaire tchèque. Tel est le résultat de l'une des premières études sociologiques consacrées à ce sujet en République tchèque. Elle vient d'être publiée sous forme d'ouvrage par 3 chercheuses de l'Institut de sociologie de l'Académie tchèque des sciences. Dans le cadre de cette enquête, réalisée entre 2008 et 2009 au sein d'une faculté tchèque, quelques 700 étudiants, filles et garçons, ont été interrogés. La majorité des victimes d'un comportement sexuel 66% affirment avoir été confrontés à une forme légère de pression de la part des enseignants, sous forme notamment de commentaires sexistes, de remarques offensives et vulgaires, souvent relatives au physique ou aux capacités intellectuelles des étudiants. 9% des personnes sondées ont avoué avoir subi un harcèlement sexuel grave, comme le chantage ou un contact physique non consentant. Fréquemment marginalisé et banalisé, le problème n'est pas négligeable en République tchèque, comme l'affirme Marta Vohlídalová, une des auteurs de l'étude. Elle replace les chiffres dans le contexte international.
En ce qui concerne les études représentatives sur le long terme, nous disposons surtout de données provenant des États-Unis et des pays anglo-saxons. Une étude américaine parle de 20 à 40% d'étudiants touchés par le harcèlement sexuel au sens large du mot. En République tchèque, à part la nôtre, une seule étude existe pour l'instant. Elle a été effectuée par les chercheurs de la Faculté des sciences humaines auprès des étudiants de plusieurs universités tchèques. Et ils sont même arrivés à des chiffres supérieurs comparés à nos résultats.
Seuls 3% des étudiants interrogés évaluent cependant le comportement inapproprié des enseignants comme un harcèlement sexuel. Ne s'agit-il pas alors d'un problème artificiel, Marta Vohlídalová?
J'ai été surprise par certaines histoires incroyables qu'ont vécues les étudiants que nous avons rencontrés. En fait, le scénario a toujours été le même. D'abord, ils nous disaient ne pas être confrontés à un harcèlement sexuel de la part des professeurs. Ensuite, ils ont commencé à se souvenir de situations assez délicates qui se sont déroulées lors des examens ou même pendant les cours. Le problème du harcèlement dans notre société est aussi un problème linguistique. Les gens ne savent pas exactement ce que ce terme signifie, ce qu'il englobe. Ces étudiants hésitaient à parler d'harcèlement sexuel, mais il n'empêche que ces comportements-là leur ont été désagréables. Ils les percevaient comme problématiques, comme une atteinte à leur dignité, comme quelque chose qui n'a pas de place dans le milieu scolaire.
L'étude de l'Institut de sociologie s'adresse avant tout aux universités. Ces dernières devraient, comme le proposent ses auteurs, établir un code éthique et mettre en place un réseau d'assistants capables d'intervenir et de conseiller les jeunes en détresse. Une assistance qui fait défaut étant donné que 70% des étudiants ne savent pas à qui s'adresser en cas de problème. La crise gouvernementale qui secoue le pays depuis plus de 10 jours est naturellement le thème numéro 1 de l'ensemble des médias nationaux. Journalistes, politologues, psychologues analysent une situation qui semble dépasser le cadre des habituels désaccords qui peuvent apparaître au sein d'une coalition gouvernementale et qui ont dit long aussi sur la donne politique et sur le climat au sein de la société tchèque. Une situation qui risque de mettre en cause la crédibilité de tout le système politique et de ses élites aux yeux du public. Les médias ont également consacré une large place au rappel du vol de Yuri Gagarin dans l'espace, donnant à cette occasion la parole au premier astronaute tchèque Vladimír Remek. Alena Gebertová vous en dira plus.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
Le gouvernement de Petr Nečas n'existe plus, qu'il se maintienne ou pas et quelles que soient les conditions. En tout cas, ce ne sera plus le même gouvernement, peut-on lire dans l'éditorial de l'hebdomadaire Respect. Pour les uns, c'est un gouvernement appelé à sauver par des réformes le pays de la banqueroute et d'un scénario à la grecque. Pour d'autres, en revanche, un gouvernement avec lequel toute l'économie risquait d'être dévastée. Quoi qu'il en soit, le cabinet Nečas a cessé de facto d'exister. Renchérissait ce jeudi le serveur aktualnie.cz.
La désagrégation de la coalition gouvernementale composée de 3 partis se déclarant de droite, Parti civique démocrate, ODS, Top 09 et Affaires publiques, VV, a été déclenchée par les révélations concernant les dons en liquide du ministre des Transports sortant Vidbarta, VV, à plusieurs membres de son parti dont il est le fondateur. La démission des 3 ministres Affaires publiques qui avaient fait de la lutte contre la corruption le principal motif de leur campagne électorale a ensuite été proposée au président de la République par le Premier ministre.
Accusations mutuelles, dénonciations, mystifications, enregistrements secrets.
Autant de signes accompagnant la bataille politique et la crise qui sévit dès lors sur l'échiquier politique tchèque et qui, selon l'édition de jeudi du quotidien Lidovanoviny, a pris des dimensions monstrueuses. Dans un de ses éditoriaux, nous avons pu lire.
Pendant de longues années, la société tchèque a été prête à tolérer la corruption dans la politique et la discréditation des adversaires dans les médias. Tandis que dans le passé, nous n'en avons connu que des fragments, aujourd'hui nous pouvons tout voir pratiquement indifféré. Tout a commencé lentement, pas à pas, comme une grippe mal guérie. Mais au fur et à mesure, l'infection a atteint tout l'organisme pour paralyser la vie du malade.
Petr Moss est psychologue. Il n'est pas le seul à prétendre que ce n'est plus, et depuis longtemps, le programme qui compte dans la haute politique. À son sens, ce sont les liens économiques et l'argent qui prévalent. Il écrit dans le même journal.
Nous avons affaire à une nouvelle post-démocratie néolibérale où il ne s'agit plus de voir concourir des partis politiques, mais d'assister à une compétition d'influences économiques. Il n'y a plus de compétition de vision politique, idéologique ou de valeur entre hommes politiques, car elles ont été remplacées par celles entre des groupes invisibles de lobbyistes qui défendent leurs intérêts privés dans l'espace public. On a des institutions et des structures démocratiques, il est vrai, mais la démocratie en tant que façon de penser et de développer la culture de la société fait défaut.
Dans le quotidien Hospodarské noviny, Jindřich Šídlo réfléchit sur la menace d'élections anticipées qui serait pour lui une ultime alternative qu'il vaudrait mieux éviter. Il explique.
Les élections anticipées sont un instrument servant à des situations tout à fait particulières. Le principal problème de notre scène politique, c'est l'opiniâtreté idéologique. Le Parti civique démocrate, ODS, et le Parti social-démocrate, CSSD, prétendent ne pas pouvoir gouverner ensemble. Pourtant, cela se passe tant bien que mal dans quatre grandes villes, ainsi qu'au niveau régional. En cas de chute de ce gouvernement, point n'est besoin de précipiter les gens aux urnes. On devrait plutôt former un nouveau gouvernement majoritaire avec la participation des sociaux-démocrates. Les réformes se verraient ainsi un peu modifiées, il est vrai, mais ce n'est pas une tragédie, car elles auraient au moins la chance de survivre, même avec l'arrivée au pouvoir de nouvelles garnitures de dirigeants.
Cette logique est soutenue également dans un article rédigé par le jeune économe Tomáš Sedláček, qui écrit entre autres.
Chaque réforme de longue haleine devrait être préparée dans une perspective à long terme. Pour y arriver, il faut trouver non seulement un consensus gouvernemental, mais aussi un consensus avec l'opposition. L'important est de se mettre d'accord sur le système en tant que tel, de mettre sur pied une bonne réforme, laissant un espace de manœuvre à d'éventuelles modifications partielles.
Pareille voix s'est fait entendre aussi dans le camp de l'ODS. Ce vendredi, Pavel Blažek, son vice-président, a déclaré pour le quotidien Pravo.
Je pense que le temps est venu pour que les partis démocratiques, et ils ne sont d'après ma profonde conviction que trois au Parlement, l'ODS, Top 09 et le CSSD, commencent à communiquer pour chercher une issue à la situation actuelle dont nous sommes les témoins. Il faut trouver une majorité parlementaire capable de se mettre d'accord sur les principales tâches que nous devons affronter.
D'après lui, il est inadmissible de permettre désormais aux structures telles que représente le parti Affaires publiques de se maintenir au niveau gouvernemental. À l'occasion du 50e anniversaire du vol de Yuri Gagarin dans le cosmos, le quotidien Lidové noviny a publié un entretien avec le premier et l'unique astronaute tchèque Vladimír Remek, qui est aujourd'hui eurodéputé sous les couleurs du Parti communiste. Celui-ci a notamment évoqué le moment où il a appris le vol de l'astronaute soviétique.
J'avais à l'époque 13 ans et j'étais en 7e classe à l'école. Le jour J, on a interrompu la classe pour nous annoncer la nouvelle diffusée par la radio. Je dois dire que pour moi, c'est un événement magique. Je pensais que le vol de Yuri Gagarin était tellement important pour l'humanité que la planète entière allait arrêter de tourner. Bien sûr, rien de tel ne s'est passé, mais pour moi, c'était une immense impulsion, car déjà à l'époque, le cosmos était au cœur de mon intérêt.
Vladimir Remek a vécu son expérience cosmique en 1978, en commun avec l'astronaute Alexei Goubarev, donc 17 ans après Yuri Gagarin. Il explique en quoi son exploit différait de ce premier vol.
Techniquement parlant, c'était très différent. Le but du vol de Gagarin a été beaucoup plus simple. Il s'agissait de montrer que l'homme était à même de faire un tour de la Terre, qu'il était capable de manipuler les équipements dont il disposait. Notre objectif consistait à rejoindre une station spatiale habitée, à accomplir différentes expériences scientifiques et finalement à s'en déconnecter pour atterrir. Par ailleurs, l'atterrissage exigeait un équipement technique très différent de celui de Gagarine, mais il y a encore beaucoup d'autres différences techniques.
Au sujet des secrets qui enveloppaient le vol de Gagarine, par exemple, le rapport officiel n'a été publié qu'à l'issue de son atterrissage, Vladimir Remek a dit.
On peut laisser libre cours à toutes sortes de spéculations. D'ailleurs, les deux parties rivales, les Américains et les Soviétiques, avaient à l'époque l'habitude de couvrir leurs projets spatiaux de brouillard. Il se peut aussi que l'on ait agi ainsi par prudence, par superstition. Mais toutes ces rumeurs et toutes ces réflexions, je les trouve superflues. Ce qui compte, c'est que dans l'histoire, Yuri Gagarin est inscrit comme le premier homme ayant effectué un vol dans l'espace.
C'était le miroir de la société à la lumière de la presse avec Alena Gebertova. Le programme de Radio Prague en langue française se termine. Il vous a été présenté par Magdalena Hrozinková, réalisation Irena Viernochová et Pavel Kahoun. Merci de votre attention.